Notre-Dame de Paris, d'après Victor Hugo. Lecture clé en français facile. Copyright Clé Internationale 2018. Livre premier. Le 6 janvier 1482, les cloches de la ville de Paris sonnent joyeusement, car ce jour-là, il y a deux fêtes. La fête des rois et la fête des fous. La foule des Parisiens se dirige vers la place de Grève, où on va allumer un grand feu de joie, ou vers le palais de justice, où va être représenté un mystère. Les personnes importantes de la ville et les ambassadeurs de Flandre viendront aussi voir le mystère, et à la fin de la représentation, on choisira le pape des fous. Il n'est pas facile d'entrer dans la grande salle du palais de justice, car il y a beaucoup de monde. Des bourgeois qui attendent tranquillement, des mendiants et des écoliers qui se moquent de tout et de tous.
Commencez tout de suite,
le mystère,
crie le peuple. Messieurs, du calme, dit un acteur. Nous devons attendre l'arrivée du maire. Vous nous promettez que ce mystère sera beau ? Lui demande une jeune fille. Bien sûr, répond-il, car je suis l'auteur. Je m'appelle Pierre Gringoire et je suis poète. Les acteurs montent sur la scène et la foule se tait pour écouter le mystère qui commence. Mais ce silence ne dure pas longtemps car on annonce l'arrivée du cardinal de Bourbon, du maire et des ambassadeurs. L'un d'eux, Jacques Coppenole, salue les Parisiens avec la main et leur dit
« Ce mystère n'est pas du tout amusant. On m'avait promis une fête de fous avec élection du pape. Nous avons aussi notre pape des fous à Gand. Mais voici comment nous faisons. On se rassemble, comme ici. Puis chacun à son tour va passer sa tête par un trou et fait une grimace aux autres. Celui qui fait la plus laide est élu pape. Voulez-vous que nous choisissions votre pape comme dans mon pays ?»
Des mendiants et des écoliers se succèdent pour faire des grimaces. La foule commente chaque grimace. Rit, crie et hurle. Et tout à coup, il y a un tonnerre d'applaudissements car le pape des fous vient d'être élu.
Vive le pape des fous !
Vive le pape des fous !
Crie le peuple. C'est une merveilleuse grimace, en effet, qui apparaît. Une bouche en forme de fer à cheval, l'œil gauche caché par un sourcil roux en broussaille, l'œil droit disparaissant entièrement sous une énorme verrue, des dents désordonnées, ébréchées, un menton tordu. Et c'est alors que la foule se rend compte que la grimace du pape qu'elle vient de choisir est son visage. Ou plutôt, toute sa personne est une grimace. Il a une grosse tête, couverte de cheveux roux, entre les deux épaules une bosse énorme et des jambes tordues, de larges pieds, des mains monstrueuses. La foule le reconnaît et crie
« C'est Quasimodo, le sonneur de cloches !»«
C'est Quasimodo, le bossu de Notre-Dame !»
Pendant ce temps, les mendiants et les écoliers sont allés chercher les vêtements et la couronne en carton que doit porter le pape des fous. Et Quasimodo se laisse habiller sans rien dire. Puis on le promène dans les rues pour le montrer à tout le monde. Pierre Gringoire se retrouve seul dans la salle car le public et les acteurs ont suivi le pape des fous. « Je vais aller à la place de Grève, » se dit-il. « Au moins le feu de joie me réchauffera. » Lorsqu'il arrive sur la place de Grève, il s'approche du feu qui brûle au milieu de la place. Une foule considérable fait un cercle autour d'une jeune fille qui danse, les pieds nus, en s'accompagnant avec un tambourin. C'est une bohémienne. Un homme regarde la danseuse d'un regard sévère. Il ne paraît pas avoir plus de 35 ans, mais il est chauve et son grand front commence à montrer des rides. La jeune fille s'arrête de danser et la foule l'applaudit. « Djali !» appelle la bohémienne. Une jolie petite chèvre blanche s'approche d'elle. « Djali, quel mois sommes-nous ?» La chèvre lève son pied de devant et frappe un coup sur le tambourin. La foule applaudit.
Djali, quelle heure est-il ?
Djali frappe 7 coups. Au même moment, une cloche sonne 7 heures. Le peuple est émerveillé et applaudit. C'est une sorcière, dit l'homme chauve qui ne quitte pas la bohémienne des yeux. La bohémienne se retourne et ramasse les pièces de monnaie que lui lance la foule.
« Va-t'en, bohémienne !»
crie une voix qui vient du coin le plus sombre de la place. La jeune fille se retourne, effrayée. Ce n'est plus la voix de l'homme chauve, c'est une voix de femme, méchante.
« C'est la recluse de la tour Roland !» crient des enfants. « C'est la vieille Sachette qui crie ! Portons-lui à manger pour la calmer !»
Gringoire a très faim lui aussi, mais il n'a rien à manger. En réalité, il n'a même pas un endroit où dormir, car il n'a pas d'argent. Et il est très triste. Soudain, une voix très belle le ramène à la réalité. C'est la jeune bohémienne qui chante.
« Tais-toi, bohémienne !»
crie à nouveau la Sachette. À ce moment, la procession du pape des fous arrive sur la place de Grève. Le nouveau pape des fous est magnifique, avec ses vêtements semblables à ceux du vrai pape, sa crosse et sa mitre. Brusquement, un homme s'élance de la foule et lui arrache des mains, avec un geste de colère, sa crosse de bois doré. Cet homme, c'est le personnage chauve, qui, peu avant, avait effrayé la bohémienne avec ses paroles de haine. Il porte un costume ecclésiastique. Au moment où il sort de la foule, Gringoire le reconnaît.
« Tiens, c'est donc Claude Frollo, l'archidiacre !»
Quasimodo regarde le prêtre, tombe à genoux devant lui et baisse la tête. Puis il s'établit entre eux un étrange dialogue de signes et de gestes, car ni l'un ni l'autre ne parle. Enfin, l'archidiacre lui fait signe de se lever et de le suivre. Et les deux hommes disparaissent dans une rue étroite où personne n'ose les suivre. Comme le spectacle est terminé, les bourgeois rentrent chez eux. Les tavernes ferment et les rues deviennent désertes. Gringoire suit la bohémienne et sa jolie chèvre. Au tournant d'une rue, il l'entend pousser un cri perçant. Il se met à courir et il la voit se débattre dans les bras de deux hommes qui essayent d'étouffer ses cris. L'un des hommes qui tient la jeune fille se tourne vers lui. C'est Quasimodo, qui le fait tomber par terre avant de disparaître rapidement dans l'ombre, emportant la jeune fille. Son compagnon, un homme tout habillé de noir, le suit, et la pauvre chèvre court derrière eux.
« Au meurtre !»
crie la malheureuse bohémienne.
« Arrêtez, misérable, et lâchez cette ribaude !»
dit tout à coup un cavalier qui vient d'arriver. C'est un capitaine des archers du roi. Il arrache la bohémienne des bras de Quasimodo. 15 ou 16 archers qui suivaient leur capitaine saisissent Quasimodo et l'attachent. L'homme en noir a disparu pendant la lutte. La bohémienne regarde le jeune homme qui vient de la sauver, puis elle lui dit d'une voix très douce
« Comment vous appelez-vous »«
Je suis le capitaine Phébus de Château-Perse, ma belle. »«
Merci, »
dit-elle. Et elle part en courant.
« J'aurais préféré garder la fille, » dit le capitaine en emmenant Quasimodo en prison.
Gringoire fait quelques pas dans la longue ruelle et remarque qu'elle n'est plus déserte. Il voit s'avancer vers lui des masses informes qui se traînent par terre.
« La charité, s'il vous plaît !»
crie un cul-de-jatte.
« Que le diable t'emporte !»
dit Gringoire. Un deuxième mendiant, à la fois boiteux et manchot, s'approche à son tour. Puis un troisième lui barre le chemin. C'est un aveugle qui, bougeant les bras autour de lui avec un bâton, lui demande lui aussi la charité. Il tourne le dos à l'aveugle et continue son chemin. Mais l'aveugle le suit rapidement, ainsi que le cul-de-jatte et le manchot. Gringoire se met à courir. L'aveugle court, le boiteux court, le cul-de-jatte court. Des cul-de-jattes,
des aveugles, des boiteux et des manchots, des borgnes et des lépreux sortent des maisons en hurlant et poursuivent aussi Gringoire. Ils l'entraînent sur une place immense. « Où suis-je ? » demande le poète terrifié.
« Dans la cour des miracles !»
répond l'aveugle en le regardant avec ses yeux brillants.
« Menons-le à notre roi »
crie-t-il. Il l'emmène dans une taverne et le présente au roi, un mendiant assis sur un tonneau, comme un roi sur son trône.
« Qu'as-tu à dire pour ta défense ?»«
Je suis celui qui, ce matin,
écoute !»« Je m'appelle Clopin Trouillefou, et je suis le roi de Thunes. Tu es entré dans notre ville, et tu dois être puni, à moins que tu ne sois voleur, mendiant ou vagabond. »
« Je suis l'auteur.
Cela suffit !» ajoute Trouillefou sans le laisser terminer. « Tu vas être pendu !»«
Mais seigneur, je m'appelle Pierre Gringoire et je suis l'auteur du mystère qui a été représenté ce matin dans la grande salle du palais de justice. »«
Ah, c'est toi !» dit Clopin. « J'y étais !»« Eh bien, ce n'est pas parce que tu nous as ennuyés ce matin que tu ne dois pas être pendu ce soir. Écoute, nous ne te voulons pas de mal. Est-ce que tu veux appartenir au royaume des voleurs ?
Je veux bien.
Je te fais remarquer, ajoute le roi, que tu seras pendu pour cela.
Diable !
Dit le poète.
Seulement, continue Clopin, tu seras pendu plus tard, à un beau gibet de pierre et par les honnêtes gens.
C'est une consolation.
Comme vous dites, répond Gringoire. Ce n'est pas le tout de vouloir, dit Clopin. Pour être reçu dans notre royaume, il faut que tu prouves que tu es bon à quelque chose. Et pour cela, que tu fouilles le mannequin.
Clopin fait un signe et on lui apporte un mannequin chargé de petites cloches. Le mannequin est suspendu par le cou à la corde d'un gibet.
Voilà en deux mots de quoi il s'agit. Monte sur cet escabeau et prends la bourse qui se trouve dans la poche du mannequin. Si tu le fais sans qu'on entende le bruit d'une sonnette, tu seras nommé voleur de notre royaume.
« Et si je fais chanter les sonnettes ?»
dit Gringoire.
« Alors tu seras pendu !»
Au moment où Gringoire touche le mannequin, il perd l'équilibre et tombe par terre.
« Pendez-le !»
dit Trouillefou en lui passant la corde au cou.
« Ah ! J'oubliais. Tu auras la vie sauve si une de nos femmes veut bien se marier avec toi. Allez, les femmes, regardez cet homme. Qui veut de lui pour mari ?»
Puis, se mettant debout sur son tonneau,
« Personne ne le veut comme mari. Une fois, deux fois, trois fois !»
Et se tournant vers le gibet avec un signe de tête,
« Vous pouvez le pendre !»
À ce moment, un cri s'élève.
« La Esmeralda ! La Esmeralda !»
La bohémienne s'approche du poète, suivie par sa jolie Djali.
« Vous allez pendre cet homme ? »
demande-t-elle à Clopin.
« Oui, sauf si tu le veux pour mari. »«
Je le prends, »
dit-elle. On fait descendre le poète de l'escabeau. Clopin apporte une cruche d'argile. La bohémienne la présente à Gringoire.
« Jetez-la par terre, »
lui dit-elle. La cruche se brise en quatre morceaux.
« Frère, »
dit alors Clopin en mettant ses mains sur le front de Gringoire,
« elle est ta femme. Sœur, il est ton mari, pour 4 ans. Allez !»
Quelques instants plus tard, notre poète se retrouve dans une petite chambre, assis devant une table, seul avec Esmeralda. La jeune fille ne semble pas faire attention à lui. Elle va, vient, parle avec sa chèvre. Enfin, elle vient s'asseoir près de la table.
« Voilà une jolie femme, et qui doit m'aimer à la folie pour m'avoir pris comme mari, »
pense Gringoire. Il s'approche de la jeune fille et lui prend le bras.
« Ne me touchez pas !»
« Pardon, » dit Gringoire en souriant,
« mais pourquoi donc m'avez-vous pris pour mari ?
Vous auriez préféré être pendu ?
Alors, » dit le poète un peu désappointé, « vous ne m'avez épousé que pour me sauver ? Mademoiselle Esmeralda, je vous jure de ne pas vous approcher sans votre permission, mais donnez-moi à souper.
La bohémienne éclate de rire. Un moment après, il y a sur la table un pain, une tranche de lard, quelques pommes et de la cervoise. Gringoire mange et la jeune fille, assise devant lui, le regarde faire en silence.
« Vous ne voulez donc pas de moi comme mari ?»
demande Gringoire. « Non, » dit-elle en le regardant fixement.
« Et comme ami ?»«
Peut-être. »
« Savez-vous ce que c'est que l'amitié ?»
demande-t-il.
« Oui, »
répond-elle.
« C'est être frère et sœur, deux âmes qui se touchent sans se confondre, les deux doigts de la main. Et l'amour ?»«
Oh, l'amour, » dit-elle d'une voix tremblante.
« C'est être deux et n'être qu'un. Aimez-vous quelqu'un d'amour ?»
Je ne pourrai aimer qu'un homme qui pourra me protéger. Gringoire rougit, car il n'a pas su la protéger de Quasimodo.
Pourquoi vous appelle-t-on la Esmeralda ?
Elle lui montre un petit sachet suspendu à son cou par une chaîne. Ce sachet est recouvert de soie verte et porte au centre une grosse pierre verte qui ressemble à une émeraude.
C'est peut-être à cause de cela,
dit-elle.
Gringoire veut prendre le sachet, elle recule. « N'y touchez pas, c'est une amulette. »
Gringoire se tait. La jeune fille a les yeux fixés à terre. Puis, se tournant vers le poète,
« Phébus, qu'est-ce que cela veut dire ?»«
C'est un mot latin qui veut dire soleil. C'est le nom d'un dieu. » À ce moment, un de ses bracelets tombe. Gringoire se baisse pour le ramasser. Quand il se relève, la jeune fille et la chèvre ont disparu.
Voilà une étrange nuit de noces.